Merci. Alors, essayons d'aller un tout petit peu à l'encontre de nos habitudes communes qui, lorsqu'on prononce le terme résurrection rattaché à la personne et au message du Christ, nous pousse parfois, sinon toujours, à considérer la résurrection, si l'on peut dire, en elle-même, en tant que processus de retour à la vie du Christ mort dans son corps. C'est clair ce que je dis? Et ce n'est pas ça la vision que nous livre la véritable compréhension du message du Christ. Car, c'est le second aspect que nous voulions souligner, la résurrection est le moment central, donc la finalité, de ce qu'on appelle le dessein de Dieu. Le dessein, l'ensemble cohérent des œuvres, des actes et des paroles, on peut dire efficaces si vous voulez, que Dieu pose. Alors tout ce que le Christ, et en sa personne, dans la perspective chrétienne, en sa personne, Dieu lui-même fait, depuis le commencement du monde, est destiné à aboutir à ce moment de la résurrection. Ainsi donc, la résurrection nous présente un double aspect, celui d'un événement concernant la personne concrète, historique, de Jésus-Christ dans son parcours terrestre. Mais la résurrection n'aurait de sens réduite à cette, n'aurait guère de sens si l'événement lui-même, ainsi approché, ainsi conçu, n'ouvrait pas la perspective du dessein total de Dieu. Dans la résurrection, en effet, dans cette perspective, Dieu est en train, en quelque sorte, d'entreprendre la conquête nouvelle, cette fois-ci avec l'homme, non pas lorsque, pour reprendre la référence de tout à l'heure, non pas de la façon dont sa parole l'avait réalisé aux origines, au début, ça ne veut pas dire dans le temps, lors de la création. En quelque sorte, Dieu était seul lors de la création. C'est une œuvre qui, lui, indépendamment de la façon dont je peux l'imaginer, mais c'est une œuvre qui ne se réfère qu'à lui. C'est clair ce que je dis? La mort est une œuvre qui se réfère à ce partenaire de Dieu qui est l'homme, n'est-ce pas? Mais que Dieu prend en charge. Dieu est donc en train, si l'on peut dire dans la révélation du Christ, de remédier à un double échec. L'échec premier de l'homme et, à travers l'homme, l'échec, on peut le dire, de l'amour de Dieu, de la liberté de Dieu, de la confiance que Dieu fait à l'homme. Dieu reprend donc, c'est dans ce sens total que pour comprendre le sens du dessin, la résurrection est comme une reprise en charge de la création tout entière par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ. Nous l'avons souvent dit, excusez-moi de ne faire que le rappeler, il y a ici une profondeur de sens extraordinaire et inépuisable. Toutes les religions du monde, de la même façon que toutes les philosophies du monde butaient sur la mort, les religions du monde qui situaient la mort dans le cadre du divin et par cela même la relativiser, l'annuler, rester quand même impuissante à faire le lien entre un Dieu vivant et le scandale de la mort. Car ce qui nous, consciemment et inconsciemment, nous, pour dire le moins, contrarie, et pour dire le tout, semble outrageant, dans injuste, dans l'attitude de dans la condition humaine, c'est le fait que l'homme pourrait toujours, à la limite, crier à la face de Dieu sa révolte, justifiée. Ça, c'est le Christ qui nous permet de le dire dans sa révélation. Justifier, car on a beau dire et redire, Dieu ne meurt jamais en lui-même pour aucune religion du monde, pour aucune spiritualité. Mais, ceci dit, Dieu ne peut pas assumer, dans les visions religieuses normales de l'homme, l'échec de l'être, concernant pas seulement la mort physique, mais la douleur, la souffrance, le scandale, l'écrasement du juste, toute l'œuvre de la mort, avant la consommation physique de la mort individuelle. Vous me comprenez? Comme disait, nous l'avons souvent dit, mais je le répète, Ivan Karamazov, dans les frères Karamazov, n'est-ce pas? C'est peut-être le mystère de l'athéisme, disait-il, mais il y a un mystère de l'athéisme. L'athée pourra toujours dire à Dieu, eh bien moi, je ne veux pas du bonheur humain s'il est basé sur le meurtre d'un gosse de 5 ans, c'est-à-dire d'un enfant innocent. Tu peux me promettre tout le bonheur de l'humanité, mais tant qu'un gosse de 5 ans doit mourir, je ne veux pas de ce bonheur. Ça, donc, il y avait là-bas, là, quelque chose qui n'était pas encore réglé, pour employer ce terme vulgaire, entre Dieu et l'homme. L'homme qui pouvait souffrir, qui mourait, qui se révoltait, et un Dieu qui pouvait lui envoyer de loin sa consolation, mais qui ne participait pas effectivement à cette condition de l'échec de l'homme. Eh bien, avec Jésus-Christ, c'est une des interprétations, si vous voulez, de ce dessein de Dieu. Dieu refait en quelque sorte, mais cette fois-ci, par l'incarnation, autrement dit, de l'intérieur de la nature humaine telle qu'elle est, vouée à la mort, refait l'expérience du Créé. Et Dieu lui-même s'engouffre dans la mort, dans la religion chrétienne, dans la liturgie chrétienne, dans la liturgie orientale, n'est-ce pas, c'est dit, Dieu ne meurt pas, et pourtant aujourd'hui, on est ici devant une expression vraiment en croix, crucifiée de l'intelligence et du Verbe humain, n'est-ce pas, je vous avais dit cela, non? Le Verbe est crucifié. Lorsque, par exemple, le Vendredi Saint, le Verbe humain, la parole humaine est crucifiée, on dit, aujourd'hui, celui qui a créé, qui a suspendu le monde sur les eaux, est suspendu sur la croix. Aujourd'hui, celui qui est immortel meurt. Les deux étant incompossibles et en même temps inséparables. C'est clair, les deux. On est en croix. La parole humaine, l'intelligence humaine est en croix. Eh bien, alors, on va terminer. Qu'en résulte-t-il? Vous voyez donc dans quel sens la résurrection se situe à l'intérieur d'un dessein total de Dieu, n'est-ce pas? Qui restitue la liberté, qui restitue à l'homme l'espace arraché par cette aliénation première qui avait introduit le monde dans le règne de la mort, n'est-ce pas? On peut dire que dans cette perspective, la mort est transfigurée. Plus exactement, qu'en entend-on par là? C'est que Tout comme, avant la résurrection du Christ, toute naissance conduisait inévitablement à la mort, donc la vie était pour la mort, la mort est retournée maintenant. Elle n'est que le signe, le vestige dépourvu de contenu, dépourvu de puissance, vidé de substance, mais encore présent en tant que vestige. Le vestige d'un ordre révolu où la vie était destinée à la mort. Maintenant, c'est juste le contraire. Je parle dans la perspective christique, n'est-ce pas? C'est la mort en tant que phénomène qui est remplie de vie, qui est porteuse de vie. Elle est transfigurée. On peut discuter ça longuement. Comment cela? Eh bien, ce qu'on emploie si banalement dans le vocabulaire humain sous le titre de foi, ce qu'on appelle la foi. Quand saint Paul dit « Si le Christ n'est ressuscité, ma foi est vaine », n'est-ce pas? C'est qu'avoir la foi, effectivement, ce n'est pas exprimé par la parole uniquement, un credo, un catéchisme. Ce n'est pas uniquement adhérer à un corps social qui s'appelle Église. Ce n'est pas porter une carte d'identité, encore moins, avec le titre de chrétien, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça la foi. Essentiellement, primordialement, avoir la foi, c'est entrer en relation vivante avec la résurrection du Christ et laisser cette fois-ci la résurrection envahir mon être à tel point que le moment n'étant pas encore venu pour la résurrection d'ensemble du cosmos, de cette masse du créé, mais cette résurrection ayant été accomplie totalement jusque dans le corps, dans la condition corporelle, dans le Christ, eh bien, dans la mesure où j'adhère au Christ, où j'ai la foi dans le Christ, je me greffe, comme une greffe médicale, n'est-ce pas, pour employer cette image, je me greffe sur son destin, et désormais, en moi, il y a l'œuvre de la résurrection qui s'accomplit. Je suis envahi par la résurrection, à tel point que la mort elle-même, en tant que phénomène physique, n'étant pas encore totalement, c'est ce qu'on appelle la dernière heure, le dernier jour du monde n'étant pas venu, où ce que la mort sera elle-même mise totalement à mort, ce qu'on parle de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Il n'y aura plus de mort, le monde tout entier sera transfiguré, du moins en moi, hein, croyant, la mort est transfigurée. Elle n'est plus œuvre de mort, elle est œuvre de vie. On pourrait peut-être dire quelques mots sur la façon, sur la représentation de la résurrection. C'est là, nous en avons déjà parlé, je reprends, où de nouveau il faut rectifier à la fois notre vocabulaire et notre imaginaire. Excusez-moi de répéter, nous confondons innocemment, nos catéchismes respectifs en sont en grande partie responsables, notre culture aussi, puis notre, permettez-moi de vous le dire, négligence ou paresse à opérer l'intelligence de la foi. Il y a une intelligence de la foi. La foi et l'intelligence doivent se communiquer. Notre paresse de les laisser communiquer ensemble est tout aussi responsable. Lorsque nous disons résurrection, nous nous imaginons, par un réflexe encore une fois paresseux, des symboles, nous nous imaginons la résurrection du Christ en termes de retour, de réanimation du corps, de retour à la vie, n'est-ce pas? Or, il ne s'agit pas de résurrection dans le corps, il s'agit de la résurrection du corps, c'est différent. Le corps lui-même, dans sa condition matérielle concrète, c'est la résurrection du corps. Ce n'est pas que l'âme ressuscite dans le corps. Je ne peux pas insister, mais je pense que c'est assez clair. Est-ce que je me trompe? C'est-à-dire, quand on dit résurrection dans le corps, on entend par là réanimation. Le corps qui jusque-là était sans âme, revient à la vie, le corps d'avant, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. C'est la résurrection du corps. Autrement dit, le corps lui-même passe à un autre niveau d'être, où il n'est plus tenu par les deux conditionnements essentiels de la réalité naturelle, l'espace et le temps. C'est pour cela que le corps ressuscité du Christ peut, et ça c'est des signes, c'est un code qu'on nous dit, qu'on nous donne, n'est-ce pas? Dans le récit évangélique, on dit, il passe à travers les portes fermées, il y a les traces, c'est le même et c'est un autre. Le corps lui-même, le corps du Christ cette fois-ci, est totalement pris en charge par la condition de la résurrection qui est au-delà du temps et de l'espace. Autrement dit, ce que le Christ promettait, cette victoire absolue du dessein de Dieu, du premier dessein de Dieu, qui voulait l'interpénétration, la communication totale entre l'homme et Dieu, qui a été brisée par la mort, s'est accompli, qui s'accomplira à la fin du dessein, pour tout le monde, s'est accompli à un moment donné de l'histoire, à un lieu déterminé de l'histoire, dans la résurrection du Christ. C'est clair ce que je dis? C'est pour ça que le Christ est présenté, mais on ne peut pas insister là-dessus, est présenté pour toute la prédication chrétienne, le message chrétien, n'est-ce pas? Et le mystère chrétien est présenté comme le premier né des morts, celui qui a précédé tous ses frères, n'est-ce pas? Autrement dit, l'eschatologie, la fin des temps, a déjà touché l'histoire dans un endroit qui s'appelle Jésus-Christ. Et avec ceci, la mort est désormais engloutie par la vie. Bien sûr, il reste que chacun de ceux qui adhèrent au Christ le sentent, le vivent et l'expriment. Nietzsche disait, à la fin du 19e siècle, quand on regarde les chrétiens, on ne dirait pas qu'ils sont ressuscités. Quand on voit leur... c'était l'Allemagne bourgeoise, elle l'est toujours, n'est-ce pas? Groupe, canon, tout ce que vous voulez. Hélas, elle l'est encore aujourd'hui. Mais quand on regarde tous ces chrétiens, on ne dirait pas qu'ils sont ressuscités. Un jour, j'étais à Genève, il y a quelques années de cela, un ami me dit, si vous voulez avoir un spectacle absolument inouï, allez dimanche à l'office protestant. Vous aurez aussi bien pu être peut-être un office orthodoxe ou catholique, je ne sais pas quoi. Mais c'est plus que ce qu'il y a. Alors, il y avait au premier rang les grands banquiers, Crédit Suisse, Banque Nationale Suisse, vêtus de noir, ventripotents, avec les livres qui chantaient. Ah, j'ai l'âme d'un ange, je suis un petit ange du Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu. Et je ne les juge pas, n'est-ce pas? Alors quand on regarde cela, donc, on se dit, eh bien, la résurrection n'a pas encore œuvré en ces gens-là. C'est clair ce que je dis? C'est là que avoir la foi, c'est entrer dans une sorte d'expérimentation de la résurrection. Tout comme il y avait une science expérimentale de la mort dont je vous parlais tantôt. La foi prise au sérieux, c'est exactement la compréhension et l'assimilation de ce que le Christ dit quelque part, celui qui croit en moi ne mourra pas. Il passera de la vie à la résurrection. C'est clair ce que je dis? Vous vous souvenez de cela? Et alors, on arrive, nous avons un ici tombeau. Alors, le premier tombeau, je ne sais pas quand, je ne sais pas, Tchoukoutien, vous l'appelez le comme vous voulez, n'est-ce pas? Le dernier tombeau vide. Il n'y a plus de mort. D'autant plus que, enfin, vous le savez, le tombeau vide n'a pas été. Le Christ a ressuscité les scellés, les sceaux de étant apposés. Donc le corps a traversé, était dans une autre dimension. On pourrait donner une analogie, on le donne souvent, bon, comme le Saint Paul dit, le germe. le germe qui devient plante, la graine, n'est-ce pas? La plante est-elle la graine, le cyprès ou l'arbre de le moutardier, n'est-ce pas? Moutarde était une petite graine. Est-ce la même graine qui est l'arbre? Oui et non. La chrysalide. Non, pas la chrysalide. Le papillon. Il est d'abord une chenille répugnante. Je donne toujours cet exemple. Il devient papillon. Il passe dans une toute autre dimension aérienne. Il vole. Est-ce le même être, le même corps? Oui et non. Il est mort pour devenir papillon. Mais c'est pendant lui qui est mort et qui devient. Mais s'il est mort, il ne devient pas. Ah si, parce que... Ainsi, vous voyez un peu à la fin... Pardon, s'il garde là.
Son
oui et non. Oui, certainement. Autrement dit, autant qu'on puisse dire, il garde ce qui a constitué son être profond face à Dieu. Lorsqu'il est dit « Je suis le Dieu des vivants » d'Isaac, d'Abraham, d'André, de Marie, de Paul, de je ne sais pas qui. Donc il y a là une reconnaissance qui ne disparaît pas. Maintenant, dans notre psychologie, tout comme pour la chenille et le papillon, n'est-ce pas, il y a des choses qui doivent absolument disparaître, déjà disparaissent. Je ne sais pas, avec une précision totale, moi-même, dans ma psychologie, je ne pourrais pas reproduire ce que j'ai fait l'année passée à la même heure où je me trouvais, qu'est-ce que je pensais, qu'est-ce que je mangeais. Donc il y a des choses périssables qui ne sont pas destinées déjà à l'intérieur du temps.
Est-ce que dans la psychologie humaine, il y a une sorte
Pardon
une sorte d'éternité insupportable pour
l'idée de l'éternité pour notre conscience.
On ne peut pas admettre que dans la direction, quelqu'un qui a conscience de l'éternité, qui garde sa conscience, je ne sais pas, ça ressemble à une atrocité. Ça ressemble à une conscience.
Voilà. Parce que le contenu de l'éternité ne sera pas un prolongement du contenu de la temporalité. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Je ne sais pas si vous avez bien compris, moi. C'est-à-dire, vous dites que l'idée de l'éternité, ce serait une atrocité.
C'est une insupportable.
Elle est insupportable à un certain sens. C'est-à-dire... Pardon ? Si elle se conserve telle qu'elle, voilà. Mais moi non plus d'ailleurs, ce n'est pas concevable parce que alors ce serait considérer l'éternité comme une extension de la temporalité, ce qui est évidemment erroné. La temporalité n'est pas l'éternité n'est pas l'intensification, la potentialisation ou l'intensification de la temporalité. La temporalité, l'éternité, c'est l'absence de temporalité. Qui ne dure pas. Parce que durer, ça veut dire temporalité. Vous voyez qu'on disait, pour prendre une sentence philosophique classique, on disait, eternitas non est tempore sine fine successi. C'est non stars. Cette non-distance qui interrompt avec nous la maison de l'éternité, ce n'est pas la durée sans la succession sans fin du temps.
Mais alors, c'est une
forme de est-ce que vous parlez de la conscience soumise à la temporalité? Mais est-ce que je ne présente pas d'ores et déjà, puisque les philosophes, par exemple, ou les créateurs, il y a pas seulement la succession, n'est-ce pas? Ou je pourrais me figer dans la mesure où je considère que la succession, par exemple, se coupe, s'arrête. Ce qui est d'ailleurs inconcevable. C'est une vue de l'esprit, comme disait Leibniz par exemple. Il n'y a pas de discontinuité concevable dans le temps. Si le temps était discontinu, nous ne serions même plus là, pour le dire.
rigoureusement parlant,
si le temps était discontinu, s'il s'arrêtait ici, n'est-ce pas? Je demande, alors, mais discontinu, je ne dis pas suffisant. Vous savez, on a interrompu le cours que on l'a repris. C'est une même somme, mais ce n'est pas une discontinuité. La discontinuité est impensable. D'accord? Mais quand l'expérience est essentielle, et quand même en conception, est-ce que je ne présente pas qu'au-delà et en deçà de ce que je dis, de ce qui est succession de la temporalité, il y a l'instant. L'instant n'est pas une composante de la succession. Il y a l'instant qui est comme, disons, une partie théorique, abstraite, de la succession. C'est clair ce que je dis? Attendez-moi un instant. Mais l'instant, au sens philosophique, purement philosophique, n'est-ce pas, comme par exemple, l'intuition de l'instant, c'est une de ses œuvres majeures, n'est-ce pas? L'instant, c'est précisément cette capacité que j'ai posé déjà, à condition de disposer, de considérer ma présence comme englobant la succession temporelle. La création, pour un créateur, c'est un exemple, n'est-ce pas? Pour un créateur, un poète, un musicien, la création est donnée instantanément. Il exprime, il la met successivement sur le papier, mais c'est un ordre transtemporel. Alors, l'éternité, s'il vous plaît, je ne dois pas concevoir la résurrection du Christ comme un retour à la succession temporelle, n'est-ce pas? L'éternité ne sera pas mes retrouvailles avec ma succession temporelle. D'ailleurs, c'est l'action dans soi. Lequel? Moi, aujourd'hui, qui ai 45 ans, moi, qui il y a 20 ans, qui avait 25 ans, lequel? Mais c'est précisément ce qui sera présent dans la résurrection, n'est-ce pas? On peut l'expliquer, on ne peut pas le réduire encore avec un. Il s'agit de mystère qui est d'or, mais qui est quand même appréhensible. Il s'agit donc de restituer à l'être dans une sorte d'instantanéité de présence à ce qui sera Dieu. Dieu sera tout en tout. De par la résurrection, n'est-ce pas? La présence immédiate sera celle de Dieu.
Il me semble que ça, justement, cette conception est un peu ainsi, que c'est justement une perte de l'univers.
Autrement dit, ce qui est mortel en moi, même dans le temps, ce qui est mortel en moi meurt.
Ça me paraît dangereux.
Oui.
Je sens que à ce moment-là, tout le monde se ressent, mais la perte de la personnalité, de l'identité dans la résurrection, c'est la religion bouddhiste, c'est pas ça.
Oui, elles sont. Mais donc, pour ceux qui seraient de la religion, en général, selon le monde, n'est-ce pas, ce serait une sorte de fusion. Pourquoi? Parce que le divin n'est pas personnalisé. D'abord. Parce que la résurrection n'a pas de place. N'est-ce pas? Et parce que le rêve, finalement, en fait, on se rend illusoire. C'est clair, normalement, c'est différent. Tandis que dans ce que nous appelons résurrection, on peut dire que ce qu'on construit, ce qu'on veut dire, ce qu'on exprime essentiellement, l'œuvre de Dieu, dans ce qu'elle a d'essentiellement divin, d'essentiellement bon, en fait, ne peut pas être engloutie par la mort. Et que l'être humain, en lui-même, une fois réalisé, ce qui a existé une fois est irrévocable. Ne fût-ce pas avoir existé juste un instant, c'est irrévocable. Donc, cet irrévocable en moi est une présence à moi-même, qui n'est pas question de succession, puisque je suis présent en moi-même depuis 45 ans. Je suis présent. C'est clair que je dis. Je ne sais pas. plus présent à 5h30 qu'à 3h40. C'est pas la succession. Est-ce que je peux exprimer cette présence, la décrire en succession? Non. D'accord. Alors, cette présence à moi, imagine qu'elle est encore plus présente pour Dieu. Alors, cette rencontre de présence, qui serait une conscience, ou une super-conscience, une trans-conscience, puisqu'elle ne serait plus, elle n'aura plus comme contenu la succession temporelle, mais l'instantanéité de la présence en Dieu. Alors, ce serait un problème d'être qui sont moins rationnels. Ce serait comme une sorte de dilatation de l'être, où mon moi n'est plus une barrière de toi. Je serai en Dieu, je serai en lui, en moi, il est quelque part en moi, en vous et en moi, mais je serai en même temps dans tous les autres, puisqu'il n'y aura pas le temps et l'espace, et les autres seront en moi. De joie, certainement. C'est ça. Alors, on a une très belle expression dans le poème anglais et plus souvent. Là où il n'y a pas de manque, s'ajoute une plénitude. Aller de plénitude en plénitude. Une conduite d'éternité qui serait la joie, la jubilation faite. D'habitude, nous ressentons le manque, l'état de manque. L'état de manque qui est précisément corrélatif à la temporalité. Je ne peux pas à la succession, je ne peux pas tout avoir à la fois. Je ne sais pas si je suis là. Bien. Alors, dans les caractères, il n'est pas statique.
Moi, je
croyais que ça, c'est complètement statique. Non, c'est ça. Exactement. Non, non, c'est vrai. On est